Bonjour à chacune, à chacun, tous ceux que je n'ai pas pu saluer, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une série qui s'intitule « À l'école de la prière ». Et peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis professeur. J'ai été professeur d'anglais, je suis désormais ce qu'on appelait avant instituteur. Je suis professeur des écoles, donc je commence un petit peu à avoir l'habitude. Donc ne vous inquiétez pas, je vais pas vous infantiliser, ok? Je vais pas vous demander de vous mettre en rang deux par deux, mais je vais vous demander un petit peu de participation. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc on étudie le Notre Père, qui est un passage bien connu de par le monde, qui se situe dans Matthieu au chapitre 6, les versets 9 à 12. Et aujourd'hui, bien humblement, bien simplement, j'aimerais simplement que nous puissions aller à l'essentiel. L'essentiel du Notre Père. Il y a une femme qui s'appelle Anne-Isabelle Ritchie, qui en 1885 a écrit un livre qui s'intitule « Madame Dumond ». Et dans ce livre, elle a écrit une phrase bien particulière, deux phrases qui ont marqué beaucoup de gens et qu'on peut encore entendre de nos jours. La citation est la suivante. « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Cette citation veut dire quoi ? Elle veut dire qu'on peut faire du bien à quelqu'un de manière immédiate, dans l'instant T, et faire du bien à quelqu'un, mais lorsqu'on s'en va, on peut pas continuer à faire du bien à cette personne. Alors que si on va un petit peu plus loin, si on met la personne que l'on veut aider à profit, qu'on la met à contribution, on peut avoir un effet bénéfique sur quelqu'un, sur une famille, sur une communauté, à long terme, même lorsque nous, on ne sera plus là. Et cette citation me fait penser à notre Père, cette prière du Notre Père que Jésus a enseignée à ses disciples. Jésus n'est plus là physiquement pour nous réciter cette prière, mais il nous l'a laissée. Il nous l'a laissée comme un exemple. Il nous l'a laissé comme un modèle, de façon à ce que nous puissions nous en inspirer. Je n'ai rien contre le fait de la réciter par cœur. Si vous la connaissez par cœur, il n'y a aucun problème. Mais il faut bien que l'on sache, que l'on reconnaisse que ce n'est pas une formule magique. Il n'y a rien dans les mots en eux-mêmes qui vont pouvoir débloquer quelque chose. C'est uniquement l'esprit qu'il y a derrière. Si je vous dis « Abun debashmaya, neskadash shmak » Teite Malkatula, Newei Tsevinash, Aikana Dbashmaya Abbara, Avlan Lashma Tsukanan Yeomana, Washboklan Kabain Aikana Dafknan, Shboknan Laikabain Amin. Qui a compris? C'est de l'araméen. De l'araméen, une langue qui n'est plus parlée depuis environ 1500 ans. Et c'est le Notre Père que je viens de réciter en araméen. Donc c'est joli. Ça peut nous faire du bien aux oreilles, ça peut nous faire du bien au cœur, certes, mais au niveau de l'intelligence, même moi j'ai du mal, je suis sûr que j'ai fait plein de fautes, j'ai pas un bon accent en plus, mais ça ne produit rien au niveau de notre intelligence. Et je pourrais vous demander d'apprendre cette prière par cœur, de la réciter, peut-être que spirituellement ça va faire quelque chose, peut-être qu'à notre âme, à notre esprit, ça peut peut-être nous procurer de la joie pendant un temps, mais il n'y a rien à l'intérieur que l'on puisse comprendre, que l'on puisse retirer, que l'on puisse mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, de façon à ce qu'elle soit bénéfique. Vous êtes d'accord avec moi? Alors que je suis instituteur, cette semaine, j'ai appris à mes petits CE2 à faire la multiplication à deux chiffres. Et je ne savais pas que c'était aussi compliqué d'être simple. Je leur ai appris à faire la multiplication, et je vais te donner un exemple. Je leur ai dit, on va prendre 224, que l'on va multiplier par 37. Et je leur ai expliqué, on prend d'abord le 7, que l'on multiplie avec le chiffre du haut. Une fois que c'est fait, on passe au suivant, et on passe au suivant. Ensuite, on passe en dessous, on continue, on met un point, etc., etc. Mais quel serait le but si le lendemain, je revenais les voir en leur disant « Alors, c'est quoi la multiplication à deux chiffres ?» Ils me diraient « Ah, c'est facile, c'est 227 multiplié par 37. » Non, c'est pas ça. Si, on prend le 7, on multiplie. Non, le but, ce n'est pas d'apprendre la multiplication que j'ai donné un exemple par cœur, mais c'est la méthode qu'il y a derrière, on est d'accord. Le Notre Père, c'est la même chose. Les mots qui sont employés sont certes importants, mais ce ne sont pas les plus importants. Ce qui est le plus important, c'est l'esprit. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quelle est la prière que nous devons adresser à Dieu au-delà des mots que nous pouvons employer, que ce soit dans notre langue maternelle, que ce soit en araméen qui ne se parle plus, que ce soit dans une autre langue. Et de la même manière que si on veut, on peut prendre une orange, on peut la manger certes, mais si on veut du jus d'orange, il faut prendre cette orange, la presser de façon à pouvoir en retirer le meilleur, les vitamines, tout ce qui est peut-être néfaste pour le corps, on s'en débarrasse et on garde l'essentiel. Je vais essayer bien humblement et bien simplement de faire pareil avec le Notre Père. Ensemble, nous allons la décortiquer, cette prière, de façon à pouvoir en retirer l'essence. Vous êtes d'accord avec moi? Avant cela, je vais vous demander de simplement bien vouloir fermer les yeux, de courber vos têtes et de vous unir à moi en prière. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette journée. Je te remercie pour ce culte et merci pour ta parole. Je te remercie pour ta présence au travers des chants. Merci parce que nous avons la possibilité, la liberté de te chanter, de te louer, de t'adorer, Seigneur mon Dieu. Et nous avons aussi la liberté, le privilège, même l'honneur de t'apporter nos prières. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ce message que tu m'as mis à cœur, afin que tu le rendes clair, Seigneur mon Dieu, que mes mots soient clairs, que mes pensées, Seigneur mon Dieu, soient claires, afin que nous puissions ressortir, non pas avec les paroles d'un homme, non pas avec les paroles d'un pasteur, d'une église, d'une religion, mais avec tes paroles à toi, Seigneur mon Dieu. Utilise-moi, Seigneur Jésus, comme tu as utilisé Céline et toute son équipe, Seigneur mon Dieu, afin de parler à nos cœurs, pour que nous puissions te connaître plus, que nous puissions t'aimer plus, Seigneur mon Dieu. Qu'à toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous mets à contribution, je vais vous demander de répéter. Notre Père qui est dans les cieux. Ah, il y en a deux là-bas qui n'ont pas répété. On refait. Notre Père qui est dans les cieux. C'est le début. C'est ce par quoi Jésus commence. Jésus parle à ses disciples et dit, lorsque vous priez, vous commencez par notre Père qui est dans les cieux. On parle de Dieu, on est d'accord. On parle du Maître du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. On parle de El Shaddai, le Tout-Puissant. On parle de Yahweh. On parle de celui qui est éternel. Et pourtant, lorsque Jésus s'adresse à lui, il ne va pas prendre un titre qui lui revient, mais qui pourrait peut-être nous paraître un petit peu pompeux. Il va simplement l'appeler Père. Ce grand Dieu qui a tout pouvoir, qui a tout créé et qui pourrait tout arrêter en un instant. Celui dont la puissance n'est même pas contenable dans tout l'univers entier, lorsque Jésus s'adresse à lui, il lui donne un terme et une image qui est extrêmement accessible pour nous, l'image du Père. Il nous montre ainsi la proximité que Dieu a, que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on ne peut pas connaître. Son amour est insondable, mais son cœur, il veut le partager avec nous. De la même manière qu'un père terrestre doit prendre soin de ses enfants, doit les protéger, doit être bienveillant avec eux, Jésus nous dit, lorsque vous parlez à Dieu, c'est la même chose. C'est un père pour toi. Et alors que Jésus, il nous est dit dans la parole de Dieu que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, le Messie, Jésus aurait pu commencer sa prière en disant, lorsque vous priez, attendez deux secondes, moi je commence, mon Père. Non, il dit, lorsque vous priez, adressez-vous à lui en disant, notre Père. Jésus, qui est le Fils de Dieu, nous montre et nous démontre ainsi que toi, que moi, malgré nos imperfections, malgré notre nature mauvaise et pécheresse, nous avons la possibilité d'appeler Dieu mon Père. Lorsque j'étais enseignant dans un collège, je me rappelle de l'histoire d'une collègue qui me parlait d'il y a à peu près 20 ans. Elle et son mari ne pouvaient pas avoir d'enfants et ils se sont rendus à Madagascar par le biais d'une association, par le biais d'un orphelinat pour aller adopter un enfant. Et alors qu'elle se trouvait dans l'orphelinat, elle se promenait dans le jardin, elle se promenait dans les chambres avec son mari et elle m'a dit qu'à un moment donné, ses yeux et ceux de son mari sont tombés sur les yeux d'un enfant. Un petit garçon qui était bien évidemment le plus beau d'entre eux, pour eux, qui avait quelque chose de spécial. Elle dit, je n'arrivais plus à relever mes yeux de cet enfant et nous avons décidé de l'adopter. Et ils ont adopté cet enfant et maintenant il est grand, il est au lycée et c'est une belle histoire. Mais cette histoire a une dimension humaine. Lorsque nous, on veut adopter, on cherche peut-être ce petit détail, on cherche peut-être quelque chose de spécial dans l'enfant que l'on va adopter, que l'on va faire sien. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Dieu nous regarde et nous sommes tous spéciaux à ses yeux. Nous sommes tous beaux à ses yeux. Vous êtes toutes belles aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui vous a créé. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, le fruit d'une coïncidence. C'est Dieu qui vous a voulu. C'est Dieu qui vous a désiré sur cette terre. Et il veut être ton père. Mais la question n'est pas, est-ce que Dieu veut bien m'adopter ? La question est-ce que toi, tu veux bien l'adopter ? Lorsque Jésus nous enseigne à prier, il nous demande de commencer à la base, de commencer par considérer Dieu comme ton père, comme ton papa. Et malgré peut-être les manquements de ton père terrestre, peut-être même l'absence d'un père terrestre, il te demande de regarder, de considérer Dieu comme ton Père céleste, celui qui ne faillira jamais, celui qui ne t'abandonnera jamais, celui qui ne te trahira jamais, celui qui ne te mettra jamais de côté. Dans Romains 8, 15, il nous est dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba qui veut dire Père en hébreu. C'est nous qui pouvons accepter ou refuser de le choisir comme Père. Amen. Deuxièmement, Jésus dit, vous répétez après moi, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié en hébreu, cela veut dire rendre ou reconnaître vénérable. Est-ce que le nom de Dieu est vénérable pour toi? Est-ce que le nom de Dieu est puissant pour toi? Est-ce que le nom de Dieu représente la beauté, la bonté, la majesté, la magnificence pour toi? Que ton nom soit reconnu pour sacré, vénérable, admirable. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je le fais dans ma propre vie? Est-ce que dans ma propre vie, le nom de Dieu est sacré? Ou est-ce que je l'utilise à toutes les sauces? Est-ce que je le désacralise? Est-ce que je le salis? Est-ce que je le mets de côté? Est-ce que je le prends uniquement comme une petite étiquette? Ou est-ce que je le vénère? Est-ce que je l'adore? Est-ce que je sais que ce nom est spécial, que ce nom est particulier pour moi? Est-ce que je tiens le nom de Dieu pour sacré, pour grand, pour magnifique et majestueux dans ma vie, dans mes pensées et dans mes actions? La Bible nous révèle à plusieurs reprises les noms de Dieu, les noms que Dieu a pu revêtir pour se présenter à son peuple. Il nous est présenté comme le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui veille sur moi, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui m'aime, le Dieu qui m'accompagne. Mais est-ce que ma vie, est-ce que mon attitude de tous les jours sont en adéquation avec ces noms-là, avec les noms de celui que j'aime, celui que je dis servir et que je considère comme mon Père céleste? Le psaume 121 me dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Voici le nom de Dieu, un des noms de Dieu. Cela impose un certain respect. Cela entraîne une certaine attitude de vénération, une attitude de crainte, une attitude d'amour envers ce Dieu qui prend soin de nous. Que ton règne vienne. Il y en a quatre qui suivent. Donc quand moi je dis le Notre Père, vous vous répétez. Que ton règne vienne. C'est bien. Je donnerai un bon point à la fin. Mais avant d'aller plus loin, que ton règne vienne. On demande à Dieu à ce que son règne vienne. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est le règne de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu. Là encore, la parole de Dieu nous l'explique. Psaume 45, versets 7 à 8. Ton trône, ô Dieu, subsiste à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton règne est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Voici en quoi consiste le règne de Dieu. Le royaume de Dieu consiste en l'amour de la droiture, de l'honnêteté, de la justice. Mais ça consiste aussi en la haine de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est égoïsme, de tout ce qui est méchanceté. Jésus fut une fois interrogé par un homme qui cherchait à connaître le but de cette vie sur terre. Dans Marc 12, verset 32, un scribe, ce qui avait pour tâche de simplement recopier l'Ancien Testament, lui dit « Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Le royaume de Dieu consiste en un royaume où se pratique la bonté, où se pratique la justice, où se pratique la vérité. Et tout ce qui est contraire à cela n'est pas du royaume de Dieu. Et lorsque l'on prie et qu'on dit que ton règne vienne, ce serait facile de croire que le royaume de Dieu il va tomber tout seul, il va venir du ciel directement et il sera de là-bas jusqu'à là-bas et telle frontière. Non, le royaume de Dieu doit d'abord venir dans mon cœur. Le royaume de Dieu doit d'abord descendre dans ton cœur. Lorsque tu pries le Notre Père et que tu dis que ton règne vienne, c'est que tu es prêt à laisser ton cœur être l'endroit où Dieu, le roi des rois, peut agir, peut régner, peut avoir son mot à dire, peut peut-être te reprendre. Si l'on veut que le règne de Dieu vienne, il faut que nous puissions nous comporter comme les sujets du roi des rois et accomplir sa volonté. Il faut que ma vie soit un exemple de ce en quoi le royaume de Dieu consiste, avant de pouvoir le demander aux autres. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y en a plus à la fin qu'au début. Le ciel est l'endroit où la volonté de Dieu s'accomplit sans encombre, sans obstacle, puisque le ciel ne contient pas le péché. Il n'y a personne de pécheur au ciel. En revanche, sur la terre, il n'y a que des pécheurs. De ce fait, la volonté pure et parfaite de Dieu ne peut pas complètement s'accomplir. Pourquoi ? Parce que ça nous demande à nous de bien vouloir nous soumettre à sa volonté. Comme on l'a vu juste au-dessus, pratiquer la droiture, marcher dans la vérité, haïr le mensonge, mettre de côté tout ce qui est mauvais et malhonnête, ça nous demande à nous de faire quelque chose. Accepter que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie, c'est vouloir la faire moi-même dans ma propre vie, pour ensuite pouvoir essayer de le montrer aux autres et que les autres, en retour, puissent l'accomplir également. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Je vous rassure, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous et toutes des pécheurs, des pécheresses sur cette terre. Il n'y a rien de bon en nous. C'est pour cela que Jésus nous demande, Jésus nous enseigne de tourner les regards vers Dieu et de lui demander, Seigneur, que ta volonté qui est bonne, ta volonté qui voit la fin avant même le début, ta volonté qui a mon bien, qui a le bien de mon prochain en tête, que ta volonté puisse s'accomplir dans ma vie. Mais pour cela, il faut un cœur volontaire. Il faut un cœur qui s'humilie, un cœur qui obéit, même lorsque la volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Lorsque nous voulons faire quelque chose qui, nous savons pertinemment, n'est pas la volonté de Dieu, alors nous devons nous soumettre et accepter de mettre cela de côté, mettre notre volonté de côté, afin de pouvoir accomplir celle de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est bien. Ici, Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu pour nos besoins les plus essentiels, les plus basiques. Le pain, que ce soit dans n'importe quelle civilisation, n'importe quel pays, n'importe quelle langue, c'est la nourriture de base. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu même dans les petites choses. Même dans les choses qui nous semblent insignifiantes, même dans les choses qui nous semblent à notre portée. Je travaille, je peux aller acheter du pain, ou si j'ai des difficultés, je peux aller demander à quelqu'un, mais je peux m'en sortir tout seul. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu dans tous les domaines, que ce soit les grandes choses comme le grand plan de Dieu, la grande volonté de Dieu, comme pour nos besoins les plus basiques, les plus primaires. Il veut que l'on s'en remette à Dieu pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre corps, prendre soin de notre foyer, prendre soin de chacun de nos besoins. Il est intéressant de remarquer que Jésus ne nous demande pas de prier de façon à ce qu'on ait un gros stock, qu'on ait tout en une seule fois et qu'ensuite on ait la sagesse simplement pour dispatcher. Non, vous qui avez peut-être des enfants ou vous qui avez des parents en tout cas, à aucun moment, un jour votre père vous a dit « Ok, c'est lundi, je te donne toute la nourriture pour la semaine, débrouille-toi ». Il faut que tu sois un petit peu indépendant, il faut que tu sois sage. Allez, je te laisse gérer, etc. Non, c'est tous les jours que les enfants ont besoin de manger. N'est-ce pas, pour ceux qui en ont ? Je vous rassure, je suis pas un enfant, mais moi aussi. Tous les jours, ils vont venir et revenir demander « qu'est-ce qu'on mange ?» Ou alors « à quelle heure on mange ?» Ou « pourquoi on mange pas ça ?» Ou alors « et pourquoi on mange encore ça ?» C'est un besoin que les enfants n'ont aucun problème à faire savoir à leurs parents. Et c'est pour cela que Jésus prend encore cette image du Père en lui disant, de la même manière que vous savez embêter, pour pas dire autre chose, vos parents pour manger quelque chose, pour avoir quelque chose à vous mettre sous la dent, faites la même chose avec Dieu. Vos besoins les plus simples, vos besoins les plus essentiels, Peut-être que pendant un temps, tu es capable de subvenir à tes propres besoins. Mais peut-être que viendra un jour où tu éprouveras des difficultés. Des difficultés peut-être à cause de la maladie, à cause d'une période de chômage, à cause d'une période d'accident. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, même avec tes besoins les plus simples, tes besoins les plus primaires, tes besoins les plus basiques, demande-le-moi parce que je suis capable de te servir. Je suis capable de te bénir. Je suis capable même de te nourrir. Arrive le jour où tu ne seras peut-être même plus capable de te nourrir toi-même. Fais-moi confiance. Moi, je suis et je serai toujours là. Lamentation 3, versets 22 à 23 nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Il veut qu'on le prie et qu'on lui fasse confiance pour la nourriture qu'il y a à mettre sur la table, pour le lit dans lequel on dort, pour la voiture que l'on doit conduire, pour les vêtements que l'on doit mettre. Tout vient de lui. Tout nous vient de Dieu. Et il est important de remarquer la redondance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu n'est pas après notre compte en banque. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce que vous entendez sur Internet. Dieu n'a que faire de votre argent. Dieu n'a que faire de votre portefeuille. Dieu n'a que faire de vos chèques. Ce que Dieu veut plus que tout l'or du monde, c'est votre cœur. Ce que Dieu veut, c'est pas que tu aies de l'argent pour lui, mais c'est que tu aies de l'amour pour lui et pour ton prochain. Et comme toute relation, ça se fait pas en une fois. Ça se fait tous les jours. C'est pour ça qu'au travers de cette prière, Jésus nous dit, lorsque tu parles à Dieu, lorsque tu le pries, confie-lui ton aujourd'hui. N'aie pas peur pour le lendemain. Il nous est dit à un autre endroit dans la parole, à chaque jour suffit sa peine. Oui, demain, tu auras d'autres besoins. Oui, le jour d'après, tu auras d'autres besoins. Et le jour d'après. Mais en attendant, confie-lui ton aujourd'hui. Confie-lui ton présent. Fais-lui confiance et regarde-le. Regarde-le subvenir à tes besoins d'aujourd'hui. Ainsi, demain, tu n'auras pas peur. Tu n'auras plus peur. Et tu pourras continuer à lui faire confiance. C'est au travers de nos besoins quotidiens qu'il veut qu'on lui apporte chaque jour que nous pouvons construire, que nous pouvons développer, que nous pouvons approfondir cette relation avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Il faut établir deux sortes d'offenses. La première, c'est celle de notre nature. Comme je l'ai expliqué précédemment, Dieu est pur, Dieu est saint, Dieu est parfait. Bref, tout l'inverse de nous, en tout cas de moi. C'est pour cela que nous devons, avant toute chose, reconnaître que malgré toutes les bonnes actions que je pourrais faire, tous les bons mots, les bons proverbes ou même les bonnes pensées que je pourrais avoir, je ne pourrais jamais égaler Dieu. Je ne pourrais jamais arriver à égaler sa sainteté. C'est pour cela que l'offense la plus grande, c'est celle d'être pécheur, d'être pécheresse. Et il faut que je lui demande pardon pour cela. Et on pourrait penser qu'une fois que ça c'est fait, on est tranquille, on est des petits saints, ok, on marche parfaitement sur un nuage. Non. Malheureusement, tant que nous serons sur terre, tant que nous serons dans ce corps, nous serons sujets au péché. Nous pourrons encore tomber, nous pourrons encore faillir, nous pourrons encore faire du mal, nous pourrons encore malheureusement nous tromper. Mais Dieu le sait et Dieu nous dit, même lorsque tu tombes, même lorsque tu faillis, même lorsque tu te plantes, même lorsque tu échoues, même lorsque tu fais du mal autour de toi sans le vouloir, demande-moi pardon, simplement. Et je le ferai. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Non pas pour la plupart des iniquités, non pas pour la majorité, non pas pour 99%, mais pour toutes nos iniquités. Que tu suives Jésus depuis une heure, un mois, 10 ans, ou quand bien même cela ferait 100 ans. Chaque jour, lorsque tu te trompes, lorsque tu faillis, lorsque tu échoues, lorsque tu dis quelque chose que tu n'aurais pas dû, lorsque tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû, viens simplement devant Dieu et demande-lui pardon. Non pas pour t'écraser, non pas pour t'humilier, mais parce que c'est le plaisir de Dieu que de nous pardonner. C'est le plaisir de Dieu que de nous remettre la dette. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Celui-là, on ne veut pas le répéter. Hein. Il fait mal. Au premier culte, j'ai pas eu un amen. Rien du tout. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a un raisonnement derrière. Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Pourquoi est-ce que ce verset, si Dieu avait juste un tout petit peu de blanco, s'il pouvait le mettre juste sur ce passage? Tout le reste du Notre Père, moi, j'adhère, j'achète. Mais celui-ci, non, des fois, on n'a pas envie. Pourquoi? Parce que voici notre raisonnement humain. Si quelqu'un nous a fait du mal, si quelqu'un a causé du mal à nous ou à notre famille ou à quelqu'un qu'on aime, il ou elle doit payer. Et c'est tout. Ça s'inscrit. Il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait vengeance. Et en parlant de payer, c'est pas étonnant que Jésus, pour nous faire comprendre le raisonnement de Dieu son Père, va parler avec une parabole qui parle d'argent. Dans Matthieu 18, verset 23. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. En gros, une énorme somme d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Transcription, une petite somme d'argent. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Lorsque nous voulons que quelqu'un paye pour le mal qu'il ou qu'elle nous a fait, avant cela, nous devons penser au mal que nous infligeons à Dieu, non pas uniquement avec nos actions, non pas uniquement avec nos paroles et nos pensées, mais simplement par notre nature. Dieu est saint et d'après sa sainteté, d'après sa justice, nous n'aurions même pas le droit de prétendre, penser à éventuellement prononcer ne serait-ce que son nom. Mais parce que Dieu nous aime, il prend cette dette colossale et il nous la remet en entier. Pas un petit peu, pas une grosse partie, pas la majorité, mais il l'efface complètement. La parole de Dieu nous dit que nos péchés sont enfouis au fond de la mer. Dieu les oublie, Dieu les efface complètement, si simplement nous le lui demandons. C'est pour cela qu'en retour, nous devons prendre cette grâce imméritée, ce cadeau, ce privilège que Dieu nous donne et que nous devons en faire, que nous devons exercer envers les gens, les hommes et les femmes qui sont autour de nous. Toujours pas de amen. Nous devons réaliser que notre dette, cette dette de milliers, de millions, de milliards d'euros, Dieu ne la voit plus désormais. Il nous l'a remise complètement. Et il n'est pas comme un homme en disant « Ok, je te la remets, mais maintenant je boude. » Ou alors il va falloir que tu fasses quand même des efforts en échange pour regagner ma confiance ou pour regagner mon amour. Non, Dieu la remet en totalité, sans rien nous mettre à plus tard, sans mettre de crédit, sans mettre quoi que ce soit, sans de dette pour plus tard. Non, c'est pas un piège, c'est complètement effacé. C'est pour cela que désormais, cette grâce qui nous a été donnée, cette grâce qui nous est tombée dessus, que Dieu nous a offerte, nous pouvons désormais la mettre à profit pour les gens qui sont autour de nous. Amen. Ne nous induis pas en tentation. L'apôtre Jacques, dans sa lettre au chapitre 1, verset 13, dit « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, si ce n'est avec les autres. Nous sommes tentés dans notre chair par de mauvaises actions, par de mauvaises paroles, même par de mauvaises pensées. Au boulot, il y a 2-3 collègues qui sont venus me voir pour cette petite combine. Ok, si je marche avec eux, le patron le saura pas, j'aurai un bonus et personne le saura. C'est pas tentant ça? Être tenté par l'appât du gain? Si je dis pas toute la vérité sur ce qui s'est passé dernièrement, si on me demande pas, j'ai rien à dire, on me demande pas mon avis, je dis pas ma version, bon certes ils sauront pas la vérité, mais moi au moins j'aurai pas de problème. Est-ce que c'est pas tentant ça? De s'en sortir en ne disant pas toute la vérité ou simplement en gardant notre bouche fermée? Mais ça va plus loin, ça va même dans nos pensées. Si je laisse ce petit désir, si je laisse ce petit manège avec ma collègue ou avec mon collègue, simplement dans ma tête, je fais rien de mal. Mes mains sont clean, mes mains sont pures. Mais si j'y repense, et j'y repense encore, est-ce que c'est pas tentant aussi de se faire et de se refaire des films? Toutes ces choses nous tentent à cause de notre nature. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse à être égoïste. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse à vouloir tromper notre conjointe, notre conjoint. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse à vouloir plus d'argent. Ce n'est pas Dieu qui nous pousse à être malhonnête. C'est nous-mêmes. Ces tentations se présentent devant nous et c'est à nous d'avoir une réaction. Et alors qu'il est très facile d'y succomber, on n'a même pas besoin de force, il est de notre responsabilité de demander à Dieu le soutien, de demander à Dieu la force, de demander à Dieu la capacité d'y résister. De résister à la tentation, oui, dans nos actions. De résister à la tentation, oui, aussi dans nos paroles. Mais de résister à la tentation aussi dans nos pensées. Parce que l'apôtre Jacques va même plus loin. Lorsqu'on pense à quelque chose, lorsqu'on laisse la convoitise faire son œuvre dans notre pensée, c'est ensuite que cela peut se transformer en action. Et c'est ensuite que, malheureusement, c'est nous-mêmes qui allons en payer les mauvaises conséquences. La tentation se présente à nous et il n'est pas difficile d'y succomber. Mais Jésus nous enseigne, Jésus nous demande de prier Dieu, de nous aider à résister à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Dernier point. En échange, alors que je suis sujet si facilement à suivre l'ennemi et à tomber dans ses pièges ou à tomber dans mes propres pièges, Jésus nous enseigne à prier afin que nous puissions suivre Dieu et que nous puissions faire notre, ses plans pleins de bonté. Si ma vie, si mes pensées sont tournées et dédiées entièrement à Dieu, alors je n'aurai plus à craindre l'ennemi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques, un petit peu plus loin. Chapitre 4, verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais il est intéressant de voir que les deux premières parties sont la même chose. « Soumettez-vous donc à Dieu » et résister au diable, c'est la même chose. Si vous voulez résister au diable, alors soumettez-vous à Dieu. Si vous vous soumettez à Dieu, alors vous résistez au diable. Pourquoi? Parce que si on fait notre la pensée de Dieu, si on fait notre son royaume, si on laisse dans notre corps son règne, si on laisse dans notre cœur sa volonté, être le désir le plus ardent de notre cœur, il n'y aura plus de place pour un ennemi. Et il nous est dit, qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de nous. En nous soumettant, en nous humiliant devant Dieu, en disant « Dieu, mes désirs ne sont pas les tiens, mais je veux faire ta volonté, je veux que ton règne s'accomplisse dans ma vie. » En nous obstinant à vouloir le suivre lui, à vouloir le servir lui, à vouloir accomplir ses plans et ses desseins, le diable n'aura même plus de place pour une quelconque emprise dans notre vie. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à bien vouloir reprendre place. Et en terminant, j'aimerais simplement nous dire que cette prière du Notre Père est l'exemple de la prière dans sa forme la plus profonde et la plus complète. Même si cette prière est enseignée universellement, lorsque Jésus l'a enseignée, il a voulu que tous les disciples puissent l'apprendre, que tous les disciples puissent la prier. Et pourtant, elle est la plus individuelle, elle est la plus personnelle qui soit. Même si elle est dirigée vers Dieu, cette prière influence notre vie sociale et nos relations avec notre prochain. Cette prière nous appelle à reconnaître notre besoin premier, qui est spirituel, tout en mettant en lumière nos devoirs éthiques. Elle inclut l'adoration, la supplication, le besoin matériel, le pardon, la délivrance, et elle appelle à la grâce de notre bon Père. Plus qu'une récitation, Elle nous appelle à nous remettre en question au plus profond de notre cœur et de notre vie, afin de la passer au filtre de Dieu. Comme j'ai dit au premier culte, je n'ai rien contre le fait qu'on puisse réciter le Notre Père. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on récite ce Notre Père, il faut que notre cœur et notre esprit y soient impliqués tout autant que nos lèvres. Plus que des mots, plus que prononcés par notre bouche, que cette prière que Jésus nous a enseignée, puisse être prononcée par notre cœur, puisse être prononcée par notre esprit, puisse être prononcée par notre âme. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alors que nous avons les yeux fermés, Seigneur Jésus, nous nous adressons à toi. Nous te remercions pour cette prière. Mais nous ne voulons pas la réciter machinalement et même bêtement, Seigneur mon Dieu, en passant à côté de tes bénédictions, en passant à côté de ton cœur, en passant à côté de ta volonté, de tes plans pour nous, Seigneur Jésus. Plus qu'une récitation, Seigneur mon Dieu, c'est une relation que tu nous demandes peut-être d'entreprendre, peut-être de reprendre ou peut-être d'approfondir avec toi. Cette prière est certes courte, mais elle est tellement profonde. Il y aurait tellement, tellement à partager. Mais bien aimé, alors que j'aimerais la redire une dernière fois, j'aimerais attirer notre attention que sur chacun de ces mots, chacune de ces phrases, il y a un enseignement. Chacune de ces phrases renferme une question. Une question que l'on peut se poser à soi-même en disant, est-ce que je la récite bien? Est-ce que je la prononce bien? Lorsque je dis notre Père qui est aux cieux, j'aimerais me demander comment est-ce que je reconnais Dieu comme mon Père? Si je l'appelle mon Père qui est aux cieux, à quel moment dans ma vie, à quel moment dans mes schémas de pensée, est-ce que je le considère comme mon Père? Lorsque je dis que ton nom soit sanctifié, à quel moment et pour quelle raison est-ce que je loue le nom de Dieu? À quel moment et pour quelle raison est-ce que je le traite comme vénérable? Je l'adore. Quand je dis que ton règne vienne, je me posais la question, Seigneur, en quoi est-ce que je fais venir ton règne dans ma vie? En quoi est-ce que je fais venir ton règne dans ma famille? En quoi est-ce que je fais venir ton règne dans mon entreprise, peut-être ou du moins dans mon entourage? Lorsque je dis, donne-nous aujourd'hui ou donne-moi aujourd'hui notre pain quotidien. J'aimerais me demander, Seigneur, quels sont mes besoins? Quels sont les besoins peut-être que je mets de côté? Quels sont les besoins peut-être que sur lesquels je ne te fais pas confiance? Les besoins peut-être simples ou peut-être les besoins compliqués, mais pour lesquels je n'arrive pas à te faire confiance, pour lesquels j'ai peur de te demander d'intervenir. Lorsque je prie, que je dis pardonne-nous nos offenses, de quoi est-ce que j'ai besoin d'être pardonné? Seigneur mon Dieu, que je sois pasteur, que je sois n'importe quel titre, j'ai besoin d'être pardonné encore et encore. Seigneur, montre-moi cette semaine où je t'ai offensé. Montre-moi cette semaine où j'ai offensé peut-être un frère, une sœur, mon époux, mon épouse, mes enfants, un collègue de travail. Montre-moi là où j'ai fauté. Montre-moi là où j'ai fait de la peine et que je puisse humblement te demander pardon. Lorsque je dis comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur, en retour, montre-moi à qui est-ce que j'ai besoin de pardonner. Y a-t-il quelque chose dans mon cœur que quelqu'un m'a dit, quelque chose que quelqu'un a fait, que je retiens, consciemment ou inconsciemment, contre cette personne? Si c'est le cas, montre-le-moi, Seigneur mon Dieu, et aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner, oui, à ceux qui m'ont fait du mal. Aide-moi à pardonner, oui, à ceux qui m'ont fait peut-être quelque chose qui a été douloureux, mais que je puisse trouver en toi, que je puisse puiser en toi la grâce dont j'ai besoin pour te ressembler. Lorsque je prie, ne nous induis pas en tentation. Seigneur, montre-moi quelles sont les tentations qui m'affaiblissent. Montre-moi là où je dois faire attention, que ce soit dans des actions, dans des paroles ou dans des pensées. Montre-moi les endroits dans ma tête, dans mon cœur où je ne dois pas aller. Montre-moi les terrains glissants, Seigneur mon Dieu. Montre-moi les pièges que l'adversaire met devant moi, afin que je puisse tenir ferme, que je puisse résister devant lui en me soumettant à toi, Seigneur. Que dans mon cœur, que dans mes pensées, que dans mon esprit, je puisse me repasser ta parole, je puisse me repasser tes désirs, Seigneur mon Dieu, et non pas les miens. Parce que je sais que les miens sont contraires à ta volonté. Et je sais que c'est un terrain glissant, Seigneur. Et Seigneur, lorsque je prie, que je dis, mais délivre-nous du mal. Seigneur, montre-moi de quoi est-ce que j'ai peur. Quelles sont mes craintes? De quoi est-ce que j'ai besoin d'être guéri? Qu'est-ce que je dois remettre entre tes mains? Que ce soit l'avenir, que ce soit une perspective, que ce soit une relation, que ce soit un besoin. Seigneur, montre-moi de quoi est-ce que j'ai besoin de te laisser être le maître. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Le Seigneur veut tellement nous bénir. Il a tellement à partager avec toi, mon ami. Il a un cœur immense qui bat pour toi, rempli de bénédictions, rempli de visions, rempli de cadeaux pour toi. Certes, ils ne sont peut-être pas tous matériels, ils ne sont peut-être pas tous sous la forme d'un chèque, mais il veut partager son amour avec toi, il veut partager son amitié avec toi, il veut partager la guérison avec toi. Il veut partager sa bienveillance avec toi, il veut partager sa grâce avec toi, afin de te bénir, mais aussi afin de te relever, afin de t'équiper, de façon à ce que tu puisses entamer ce voyage avec lui, que tu puisses marcher sur ce chemin avec lui sans peur et sans crainte du lendemain. Dieu veut que nous puissions le connaître intimement, personnellement, au plus profondément de nos vies, de façon à ce que nous puissions marcher à ses côtés et que plus rien ni personne ne puisse nous faire peur. Alors que l'équipe de louange va reprendre ce chant, Abba Père, Abba Père, je vais vous demander de vous lever à votre place. Lève-toi en présence de Dieu et peut-être que tu vas devoir garder les yeux fermés. Je ne vous demande pas forcément de chanter avec l'équipe. Je ne vous demande pas forcément de regarder les paroles, mais que le Seigneur puisse te parler, que Jésus puisse te parler. Il veut encore t'enseigner sur le Notre Père. L'école de Jésus n'est pas fermée. Sa classe est encore ouverte. Sa classe se situe dans ton cœur et il veut t'enseigner lui-même des choses encore bien plus grandes, bien plus profondes, bien plus extraordinaires qu'aucun homme, aucun pasteur, aucun prophète ou docteur ne pourra jamais t'enseigner. Mais il te demande à toi, mon enfant, à toi, mon disciple, est-ce que tu veux que je t'enseigne? Alors ouvre ton cœur pendant ce chant et laisse-le t'enseigner encore et encore.